Allez, aujourd'hui, pas de journal, mais on va vous parler du MUCEM. L'exposition que propose le MUCEM fera date à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de Jean Giono. Le musée marseillais lui rend hommage avec une rétrospective inspirée de l'œuvre de Giono. Nous sommes loin de l'image simplifiée de l'écrivain provençal et avec près de 300 œuvres et documents. On suit le trajet de son œuvre écrite et filmée en lui rendant sa noirceur, son air et son universalité. L'exposition ouvre ses portes au public mercredi 30 octobre et sera visible jusqu'au 17 février 2020. À noter aussi que le musée Regard de Provence, situé juste en face du MUCEM, propose en même temps Lucien Jacques, le sourcier de Giono. Et avec un ticket commun avec l'expo Giono. Une excellente idée qui rend hommage à l'alter ego de l'auteur de Colline. Le mois dernier, durant les correspondances de Manos, que nous avions reçues en préambule de ces événements, Emmanuel Lambert, commissaire de l'exposition et qui a écrit Giono Furioso, un ouvrage qui relate avec respect sa quête pour le MUCEM et l'importance de Giono pour elle. Invitée aussi la plasticienne et écrivaine Clémentine Mélois, qui a participé à la scénographie de l'expo, et Jacques Méni, président de l'association des Amis de Jean Giono. Un long entretien conduit par François Malabave et qui est dans l'actualité de l'ouverture au public de l'expo Giono. Retour sur notre émission du 27 septembre dernier avec cet extrait dédié à l'exposition du MUCEM.
Nous sommes plusieurs en plateau et nous serons assez nombreux d'ailleurs, heureusement, pour parler d'un monument. Et le monument, il est manosquin, c'est bien sûr de Jean Giono dont nous allons parler. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Lambert. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes en charge notamment de l'exposition du MUCEM et vous avez écrit aussi un superbe livre qui s'appelle Giono Furioso. Nous allons en parler dans un instant. À vos côtés, une de vos complices pour cette exposition, Clémentine Mélois. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et puis bien sûr, il ne pouvait pas ne pas être des nôtres, je l'ai dit, notre ami Jacques Méni, le président de l'association des Amis de Jean Giono. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Est-ce que cette exposition qu'on va attendre, évidemment, avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'intérêt, va remplir justement notre impatience et notre intérêt.
Oh ben j'espère, je pense. Ce que je voulais dire quand même d'entrée, c'est que je ne vois pas quelle autre institution en France aurait mis autant de moyens d'abord, de moyens financiers, de moyens techniques, autant d'espace, autant d'énergie et de conviction dans la réalisation d'une exposition qui est quand même un monument. Il est vrai que j'avais rêvé depuis très longtemps pour le 51 de la mort de Giono d'une exposition nationale importante, que la Bibliothèque nationale de France n'ayant pas été intéressée. Il y avait le MUCEM, en effet. C'est très amusant cette histoire parce que avant même l'existence du MUCEM, Pierre Berger, que, comme vous savez, je connaissais bien et qui était le président d'honneur de notre association, m'avait dit, Jacques, oubliez la BNF, c'est pas très intéressant ce qu'ils font maintenant. Allez voir du côté de Marseille s'il y aurait pas quelque chose à faire. Et moi, je lui avais répondu, je me souviens, ouais, mais Marseille, ça va encore nous remettre Giono Pagnol dans le circuit. Et finalement, non. Il faut quand même, je le dis et je vais le dire souvent, je pense, dans les semaines qui viennent, dire que Jean-François Chounier, le président et directeur du MUCEM, qui a une connaissance, je dirais, de très haut niveau de Giono et qui a la passion de cet auteur, a vraiment déployé là tout ce qu'il fallait pour que ce soit le grand événement littéraire le grand événement de l'année. Oui, oui, absolument.
Vous avez vous-même, avec l'association des Amis de Jean Giono, ouvert tout grand la maison à Emmanuel Lambert pour son travail.
Emmanuel, dis-moi si je me trompe, mais je crois que en dehors des œuvres de quelques artistes et des commandes artistiques bien sûr que tu as faites, je pense que 80% de ce qui est exposé dans les tu as choisi dans l'exposition vient de chez Sylvie Giono et du Paraïs à peu près.
Oui, pour ce qui concerne les documents papier. Oui, parce que c'est vrai que dans l'exposition, il y a une part plastique qui est extrêmement importante et qui, mais qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas le contrepoint des documents papier. C'est-à-dire que dans l'exposition, on va jouer sur l'écart entre l'homme réel, l'homme qui a vécu cette vie à Manosque pendant laquelle il a écrit, et puis l'écrivain qui est cet homme mais qui n'est pas tout à fait cet homme. Et qui a produit cette œuvre qu'on connaît, qui va déployer son imaginaire à travers des tableaux, des installations, des films. Donc voilà, donc je peux pas vraiment le quantifier parce que ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, on a un fond documentaire de manuscrits et de documents biographiques qui est absolument exceptionnel. C'est assez rare hein, d'avoir autant de choses. Je pense que c'est lié au fait que Giono a assez peu bougé dans sa vie. Hein. Il est né à Manosque, il est mort à Manosque. Et il
a vécu à 300 mètres d'ici et à 300 mètres de l'autre côté.
Exactement. Et donc, il ne fait pas partie de ces écrivains dont les traces matérielles de la création ont été dispersées au gré de leur propre déménagement, déplacement. Tout est là. Donc, on n'a pas quelque chose d'exhaustif, parce que ça n'existe pas, l'exhaustivité. Il y a toujours, même quand on est très soucieux de garder les choses, il y a toujours des choses qui vont se volatiliser. Mais enfin, on a vraiment un ensemble exceptionnel, oui.
Et vous en avez tiré un livre particulier, qui est un clin d'œil à l'Arioste en plus, Giono Furioso. C'est venu comment, cette idée de faire un livre sur à la fois vos recherches et puis, évidemment, votre rapport particulier avec cet immense écrivain?
Alors c'est venu assez tard et c'est venu de manière naturelle d'une certaine manière parce que ma particularité, je fais des expositions littéraires, mais je suis écrivaine. Je ne suis pas conservatrice de musée, je ne suis pas universitaire, donc j'ai un rapport à cette matière qui est la littérature, qui est un rapport en fait de l'ordre de la pratique. Quand je m'attaque à un écrivain, si j'ose dire, ce qui m'intéresse, c'est cette matière vivante. C'est pas l'inerte, c'est le vivant. Donc, il y a tout le travail autour de l'exposition qui se construit. Et puis, parallèlement, dans un petit coin sombre, il y a la rumination de moi-même comme écrivain qui se poursuit. Hein. Et à un moment donné, on en parlait hier avec Clémentine dans la rencontre Place Marcel Pagnol, à un moment donné... Au milieu de ce travail éminemment collectif qu'est une exposition, dans lequel vous, comme commissaire, vous devez aussi vous ouvrir aux idées des autres et accueillir leur écrivain, c'est pas seulement le vôtre, hein, c'est aussi le leur, il y a un besoin de silence et de solitude qui se fait sentir, qui est ce rapport personnel, éminemment personnel à la lecture et à l'écriture.
Il faut du recul ?
Je sais pas. Je pense qu'il faut du recul... par rapport à son propre livre à un moment donné, pour ne pas se laisser embarquer par son sujet. C'est-à-dire que Giono est tellement immense et il est tellement productif qu'il y a deux risques. Le premier, c'est de se faire écraser par un génie stylistique. Donc si on est là en train de se regarder écrire, évidemment, on va tout arrêter, parce qu'on ne pourra jamais arriver à la hauteur de l'idée qu'on se fait de ça. Et puis l'autre chose, c'est la masse. C'est-à-dire que si on se laisse emporter dans la masse de l'œuvre, on ne pourra pas produire ce qu'à mon avis il faut produire, qui est une sorte de coup de fouet à l'œuvre. Quand on a des massifs montagneux comme ça, tellement considérables, il faut arriver et quelque sorte charger là-dedans. Sinon, on dilue, on délaie. Et ça devient illisible et on se perd dans les différents masques de Giono, dans ses différents discours, dans les différentes périodes de son œuvre. Et au fond, ce qu'on produit est une pâle imitation de son propre trajet.
Et c'est l'une des leçons de votre ouvrage, c'est justement qu'il est clair. Et ça, c'est important, parce qu'on a parfois, certains écrits de Giono ne sont pas très clairs du tout. Et donc là, on est vraiment dans un rétablissement de la vérité, de la réalité, et c'est une bonne chose. Je vais vous lire un premier extrait de votre livre, Emmanuel. On va vite comprendre de quoi vous venez de parler et de quoi on va continuer à parler. Pour l'exposition qui m'a été commandée, j'ai un but, un agenda, comme disent les anglo-saxons, en ajoutant un soupçon de sournoiserie ou de stratégie à l'affaire, rendre intelligible le sujet Giono, mettre un ordre dans le désordre de l'écriture, les contradictions des déclarations, les images successives, les témoignages, composer avec le bruit du temps et de la postérité, tracer une ligne ou un propos, offrir aux autres une vision et leur faire saisir le mouvement de la création, la beauté du style et la chair de l'homme qui a écrit. Il peut bien continuer de sourire il n'est là qu'en pensée, s'amusant par-dessus mon épaule. Il est mort, voilà, 50 ans. Ça veut tout dire déjà.
Ça veut tout dire. Oui, c'est-à-dire que le sourire, c'est important quand même, chez Giono. Alors que c'est une œuvre très sombre, hein, qui cherche la lumière, mais qui la cherche vraiment dans la noirceur. Mais il y a chez lui cette chose que je trouve à la fois héritée de la littérature anglaise et sans doute également de la littérature de la Renaissance, parce que c'est quelqu'un d'immensément cultivé, qui est le sourire sur sa propre œuvre. Et le fait que, avec Giono, il est toujours un peu compliqué de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et donc il y a un rapport d'inquiétude à cette œuvre aussi qui s'installe et qui pour moi est la marque des grands auteurs. Un auteur qui est trop immédiatement facile à saisir, où il n'y a pas de doute qui s'installe, si on ne se dit pas « mais suis-je bien sûr de ce que je suis en train de lire ?» mais où on ne sort pas un peu décontenancé, déstabilisé. Pour moi, ça peut être plaisant. Mais moi, en tout cas, j'ai malheureusement une propension à l'ennui assez grande, et donc je m'ennuie terriblement, très très vite. Avec Giono, on s'ennuie jamais, mais c'est aussi parce que on est bousculé par lui, et que son sourire au milieu des charniers est une chose un peu compliquée pour nous qui lisons depuis aujourd'hui.
Vous le dites dans une belle expression à un moment dans votre livre, l'œuvre de Giono n'est pas taillée pour les douillets. Ça n'a rien à voir avec les judokas, hein, je vous rassure tout de suite, mais en tout cas c'est pour les lecteurs. Et effectivement, il y a des romans qui sont plus légers que d'autres, mais très souvent il y a quand même un poids particulier chez Giono que l'on retrouve. Alors il y a une astuce dans votre livre qui est importante. Vous parlez à Giono, comme on vient de le voir là, mais Giono ne vous répond pas. Il n'a pas besoin de vous répondre. Et en même temps, c'est une élégance magnifique. Parce que, quelle prétention de faire parler Giono. Vous n'avez pas eu cette prétention, et c'est très beau. Parce que vous questionnez quelqu'un qui n'est pas mort, disait Sylvain Tesson, il y a deux jours sur les places de Manosque. Et non, il est toujours là, il est toujours vivant. Par son œuvre, évidemment, par son poids en tant qu'être humain. Et vous parlez beaucoup de l'homme, Giono, vous dévoilez aussi certaines choses qui sont plus ou moins connues quand même, Jacques, à Manosque. On en parle depuis pas mal d'années.
Hein. Disons qu'on en parle officiellement.
Voilà, voilà, maintenant c'est fait. Et il reste encore quelques petites zones d'ombre, mais bon, on ne va pas tout dévoiler quand même. On est ici dans une ville du secret, Manosque, hein, il ne faut pas l'oublier. Les hussards se promènent sur nos toits, il ne faut pas
oublier suffit, tout ça. Il suffit de lire Le Moulin de Pologne, je crois qu'il y a vraiment le roman du secret Manosque. Hein.
Et donc c'est vrai qu'il y a il y a cette approche qui est très respectueuse de cet écrivain immense, hein, je le répète, et en même temps, vous allez au charbon, quoi. Vous lui posez des questions, il vous répondra certainement par ses œuvres, tout simplement. Quoi.
Mais oui, c'est-à-dire que il a dit plusieurs choses, Giono, et il faut toujours se méfier des entretiens d'écrivains. C'est rigolo parce qu'on est en train de faire un entretien d'écrivain.
Oui,
là,
mais on va suivre votre conseil, bon, attention.
Voilà. Mais il y a des choses, si vous voulez, une fois qu'on a lu et relu et parcouru l'œuvre, il y a des choses qui sonnent à vos oreilles différemment. Voilà. Et notamment, il a dit des choses dans son journal que moi je trouve très importantes. La première, c'est qu'il a une notation dans les années 30, il dit « n'être que mon œuvre ». Et ça, pour moi, c'est très puissant parce que je crois vraiment qu'il faut garder ça en tête tout le temps. Un écrivain, c'est d'abord son œuvre. Et si on veut approcher l'homme, il faut commencer par les livres. Et l'homme va surgir peu à peu des livres. Et ça, c'est la méthode que je m'applique à chaque fois que je lis l'œuvre intégrale d'un écrivain. L'autre chose qu'il a dite et que j'aime beaucoup parce qu'il y a le côté un peu provocateur de Giono là-dedans, il a dit « ce que j'ai à dire, je l'écris, le reste, c'est zéro ». Et j'ai suivi ça dans le livre, c'est-à-dire vous disiez je n'ai pas fait parler Giono, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout de faire parler Giono. Moi ce qui m'intéresse c'est ses livres, il a tout dit dans ses livres. Et moi le besoin que j'ai eu de lui parler en direct, là pour le coup c'est quelque chose d'un peu insolent mais que j'assume complètement, c'est-à-dire que quand vous vous prenez comme ça d'amour pour une œuvre et donc pour un écrivain, vous l'appropriez. C'est comme ça. Et je crois qu'il faut à un moment assumer cette chose. C'est-à-dire, ça ne doit pas être tout le livre, parce qu'il faut que son œuvre puisse surgir et que ma lecture ou votre lecture puissent surgir des pages. Mais il fallait que je signifie que Giono était devenu mon écrivain, temporairement, que je vivais avec lui, que toute ma famille vivait avec lui, au milieu de tous mes documents. Ça avait envahi la maison, il y en avait partout du Giono. Hein, c'était, et donc il y a,
ça
y a quelque chose.
Ça va durer peut-être encore un petit peu.
Oui, mais là, on va en sortir peu à peu. Ça va être compliqué d'ailleurs d'en sortir. Et donc ce trop-plein-là, j'ai choisi l'adresse directe parce que c'est ce qui me semblait le plus vrai, au fond. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un artifice formel. C'est quelque chose vraiment de l'ordre de la spontanéité de la lectrice.
Je vais donner une illustration de ce que vous venez de dire, Emmanuel. C'est un extrait de votre livre, bien sûr. Et vous vous adressez, devinez à qui ? À Jean Giono. Car sachez-le, c'est un fait incontestable, vous rayonnez. Dès que je dis votre nom, les visages s'éclairent de l'émotion que votre évocation diffuse. Il semblerait qu'ils vous aiment tous, et pardonnez-moi, cela m'est un peu suspect. Parfois, leur œil s'allume. Ah oui, Giono ! Et c'est un vide, car le plaisir était d'abord celui de vous nommer. Vous êtes un nom avant tout, vous êtes un mot. On vous connaît, et pour vous connaître, il n'est pas nécessaire de vous avoir lu. Telle est la rançon de votre survie dans la mémoire collective. C'est peut-être ça la notoriété.
Oui, c'était Rob Grillet, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, qui répétait tout le temps « Je suis surtout connu pour ma notoriété ». Et il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire, évidemment, je crois que beaucoup d'entre nous ont lu un livre, ou feuilleté un livre de Giono, ou entendu parler de Giono, ou l'ont étudié vaguement à l'école. Il fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine. Mais le patrimoine est quelque chose de figé. Le patrimoine est quelque chose d'immobile. Or, la littérature est quelque chose de vivant. Ça bouge, ça part, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la fixer dans une idée. C'est la grosse difficulté de l'exposition, d'ailleurs. De laisser suffisamment de marge et de jeu pour ne pas... Vous savez, c'est un peu comme la cuisine quand on fait les trucs dans des croûtes de sel, quoi. Il fallait pas faire Giono en croûte de sel. Il faut au contraire qu'il puisse sortir et exploser. Et donc, ce côté mouvant, c'est le contraire de la notoriété, parce que c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité des lecteurs. Ce n'est pas un rapport social, c'est un rapport intime.
Et en même temps, très personnel à chacun. Et il va y avoir des interprétations différentes et certainement des réactions différentes lors de l'exposition au MUCEM. J'ai choisi un autre titre, un autre extrait qui va nous transporter vers l'endroit que vous avez fréquenté ici à Manosque, évidemment pour pouvoir travailler et présenter votre travail ensuite à tout le monde, j'allais dire au monde entier, mais pourquoi pas au MUCEM dans un mois à peu près. C'est évidemment le Paraïs. La modestie de la maison de Giono est incarnée dans l'hospitalité de ceux qui en ont la charge, et plus particulièrement de Jacques, qui préside l'association. Sa sacoche de professionnel à l'épaule, débordant de documents photocopiés et de raretés chinées chez les libraires anciens, il fait trembler la maison à lui seul, s'affolant d'un étage à l'autre, éternellement à la recherche d'une ou deux, 10 000 références à la fois. Il creuse un sillon de labeur et de dépenses dans les terres d'un endroit qui, sans lui, sans eux, aurait pu rester désolé. Il a acquiescé, Jacques, à côté, évidemment.
Alors là, je me suis dit, elle fait du Giono, c'est-à-dire qu'elle grossit le trait, elle démesure, elle fait du roman, puisque la définition du roman chez Giono, c'est d'être à côté de la réalité ou de la déformer. Là, je me suis dit, là, quand même...
Là, non, la sacoche, c'est vrai, Jacques.
La sacoche est juste.
Alors...
Oui, mais là, c'est son goût de l'objet. C'était pas oublier qu'elle a travaillé avec Rob Grillet. Hein. Bon...
Il en demeure pas moins, cher Jacques, que c'est grâce à vous que tout ce tintouin se fait autour de Giono depuis déjà pas mal d'années. C'est pas la première fois que je le dis et je continuerai à le dire avec beaucoup d'énergie. Emmanuel, comment vous avez été accueilli au Paraïs ?
Bah, merveilleusement.
Comme une reine.
Comme une reine. Non, mais c'est important parce que les associations d'amis sont une chose particulière, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens, alors c'est toujours un peu gênant de parler de Jacques devant Jacques, mais c'est comme ça, qui sont mus par le plaisir. Et pas par un rapport d'intérêt, ou même par une mission qui ne serait que scientifique. C'est-à-dire que ce sont des professionnels autodidactes. Et leur rapport donc à Giono et à l'œuvre de Giono... Et là encore, j'insiste, mais est un rapport vivant. C'est que les institutions sont faites pour conserver. Et quand on conserve, on immobilise. C'est normal.
Beaucoup d'ailleurs l'ont connu.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup l'ont connu. Donc, ce sont à la fois des gardiens et des témoins. Et il y a quelque chose de Giono qui transpire chez eux. Il y a quelque chose, dans l'extrait que vous avez cité, je parle de la dépense, qui est une grande notion gionienne, très très importante. Le rapport de Giono à la générosité est quelque chose d'extrêmement fascinant, parce que il voit ce qu'il peut y avoir de sombre dans la générosité, et il voit ce qu'il peut y avoir d'harassant à être généreux. Et les âmes discrètes et cultivées, comme je les appelle dans le livre, qui sont les gens, les bénévoles qui s'occupent de l'association, sont dans ce rapport-là. C'est-à-dire, ils vous accueillent et ils vous épuisent de leur générosité. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est extrêmement gionien. Et donc, moi, je me suis retrouvée plongée dans une masse de renseignements, de documents, d'anecdotes. Et il y en avait toujours plus. À un moment donné, j'ai la même mon Dieu, mais je ne vais pas y arriver. Je vais être submergée par la générosité gionienne de ces gens qui ont la mémoire de Giono. Et puis, il faut que j'ajoute aux bénévoles de l'association, évidemment, l'accueil de Sylvie. La fille cadette de Giono, qui a été d'une... il faudrait que je trouve le mot exact, mais il y a quelque chose de l'ordre de la justesse dans son rapport à tout ça, qui est à la fois un rapport engagé et avec un détachement souverain à ce qui est en train de se passer, qui était magnifique à observer.
Il y a de la distance, c'est vrai que c'est important. Et en même temps, elle a beaucoup apprécié, elle me l'a confié hier, ce que vous avez écrit sur sa mère, qui a encaissé beaucoup de choses à Manosque et sans qui, probablement, Jean Giono n'aurait pas été Jean Giono. Et ça, c'est rendre justice à Élise, c'est une belle chose aussi. C'est quelque chose qui l'a touchée.
Ben, c'est-à-dire que je crois que c'est quand même très important. On a beaucoup parlé à bas mots, voilà, des histoires d'amour parallèle hein, de Giono. Bon, d'accord. Enfin, quand même pas tout à fait exceptionnel un homme qui a des maîtresses. C'est pas voilà, moi ça m'émeut assez peu. En revanche, le fait que Giono soit revenu de la guerre traumatisé par ce qu'il avait vu dans les tranchées. Et que de là soit née une œuvre vraiment de bruit et de fureur, pour citer un de ses auteurs favoris, qui est William Faulkner, qui s'était lui-même Shakespeare, donc vous voyez, on est en bonne compagnie. Je crois sincèrement que c'était impossible s'il n'y avait pas autour de lui quelque chose de calme. Et cette femme, qui, pour ma génération de femmes, évidemment, a vécu des choses que nous, on n'accepterait plus, au fond. Mais enfin, Giono est né en 1895, Élise est née en 1897. Donc le rapport à la conjugalité n'était pas le même. Hein. Cette femme a accepté et elle a accueilli tous les Giono qu'il y avait en Giono. Et je ne sais pas, je ne saurais jamais, s'il aurait pu développer tous ces Giono-là s'il n'y avait pas eu Élise, mais mon petit doigt me dit que non.
Avec un des Giono qui était à l'intérieur de Giono, qui s'appelle tout simplement Lucien Jacques, à qui vous rendez un hommage magnifique, et vous allez avec Jean-François Chounier lui rendre un très très bel hommage à Marseille, puisque à quelques pas du Mucem, il y aura une exposition consacrée à l'œuvre de Lucien Jacques. Vous citez également dans votre livre le travail remarquable que fait Jackie Michel avec son association. Donc vous voyez, on est en terrain de connaissance et on apprécie beaucoup ces choses-là, parce que Lucien était un ange particulier dans la vie de Giono, un créateur, un créatif, enfin bref, Giono sans Lucien Jacques, impensable.
Impensable, et c'est très émouvant en fait, parce que, bon moi évidemment je n'ai connu ni Giono ni Lucien, hein, j'étais trop jeune, mais quand je vois les photos de Giono et Lucien, plus encore d'ailleurs que leur correspondance, qui est une correspondance de camaraderie, que Jacques connaît par cœur, il y a quelque chose de l'ordre d'une douleur chez Lucien que je trouve admirable. C'est-à-dire, il y a ce touche-à-tout merveilleux qui était Lucien, qui faisait tout bien, qui avait de l'or dans les mains, quoi, et donc il arrivait à tout faire, et qui a rencontré un génie, et qui a vu que c'était plus grand que lui-même, en fait. Et il y a une générosité chez Lucien qui moi me bouleverse, parce que il a tout toléré de son ami, il s'est fâché avec lui, il s'est rabiboché, il l'a promu, il a été un passeur formidable pour Giono. Il a été lui-même dans cette dépense dont on parlait tout à l'heure, dans cette générosité ahurissante. Et je trouve très beau que Jean-François et Jackie Michel fassent parallèlement à l'Expo Giono, en face, un hommage discret à Lucien, qui fait partie de ces figures de l'ombre, sans lesquelles il n'y aurait pas, à mon avis, de grands artistes.
Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler ici même avec Jackie Michel, vous en doutez. Il y a un autre endroit particulier chez Giono au Paraïs, c'est évidemment la bibliothèque, merveilleuse bibliothèque, qui désormais est dans l'escarcelle de l'Association des Amis de Jean Giono. C'est une bonne chose aussi, parce que ça permettra de garder ce patrimoine. Et la bibliothèque, c'est un endroit dans lequel et pour lequel a travaillé Clémentine Mélois, qui adore les livres, mais elle les adore d'une certaine manière, parce que Clémentine Mélois, elle est... plasticienne, mais on peut dire aussi qu'elle est quelque part pasticheuse en chef, et elle aime bien faire des pastiches. Son ouvrage sans titre, sans comme sans le nombre, hein, évidemment pas l'absence, sans titre, dit par exemple et fait le pastiche de plusieurs œuvres magnifiques. J'en ai sélectionné quelques-unes, tout simplement Victor Hugo, qui aurait écrit Les individus en situation de précarité, c'est pas mal. Marx et sa repart, bien sûr. Siménon, Messi, Melville, Moby Dick, alors ça c'est un clin d'œil à Giono aussi inévitable. Claude Lévi-Strauss, lui, a écrit 501, figurez-vous. Sade, Justin Bieber ou Les Malheurs de la Vertu. Jack London Calling, avec la couverture des Clash, bien sûr. Wilde, qui aurait écrit 50 nuances de Dorian Gray, ou encore Born to Be, toujours d'Oscar Wilde. Sénèque, Un début. Michel Foucault, Votre dernier mot, et celui-là, alors je l'adore, Dostoïevski, Les frères Bogdanov. D'où vous viennent toutes ces idées, Clémentine?
Allez-y, Emmanuel. Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est à la radio.
Oui. Et qu'on ne voit pas les couvertures.
Voilà. Et que le travail de Clémentine, et c'est pour ça que j'ai fait appel à elle pour l'exposition, à mon avis, il ne relève pas exactement du pastiche. Il relève plutôt de la transformation par le détournement. Et c'est là où son rapport au livre, objet et contenu, mais objet, et c'est là où l'image nous manque, puisque me semblait très pertinent pour évoquer le rapport de Giono dans l'articulation. On sent ça dans ce que vous venez de lire, c'est-à-dire entre la culture savante et la culture populaire, et dans l'attention extrême à la beauté de la forme. Clémentine, elle fabrique les livres, c'est-à-dire elle a la matérialité de l'objet qui est présente et qui prend en fait presque le pas sur le plaisir que nous procure le jeu de mots. Et donc je me permets juste de préciser ça, parce que quand j'ai passé cette commande d'artiste à Clémentine dans le cadre de l'exposition, c'était aussi pour qu'il y ait ce rapport à la matérialité de l'objet que Giono avait, puisqu'il a constitué cette bibliothèque toute sa vie, et qu'aujourd'hui on peut, grâce au travail de Jacques et de l'association, la contempler au Paris comme Clémentine l'a fait pour préparer son travail.
Avant de lui passer la parole, juste vous signaler, et hier vous l'avez remarqué évidemment, que l'écritoire qui est sur la place Marcel Pagnol, où vous êtes intervenu, c'est la bibliothèque de Clémentine Mélois, avec ses ouvrages assez incroyables. Par exemple, vous disiez Moby Dick, et puis c'est un livre qui compte pour Giono, Moby Dick. Mais Moby Dick, c'était un gribouillis avec un stylo bille, quoi. Et c'est effectivement Clémentine Mélois Lois qui met sa patte aussi de plasticienne. Clémentine, la bibliothèque de Giono vous a inspiré aussi quelques détournements?
La bibliothèque m'a énormément inspiré, c'était une grande découverte. Je tiens à dire que les jeux de mots que vous venez de citer, qui évidemment prêtent à sourire, et c'est aussi le but, sont avant tout un déclencheur pour moi. C'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'en image, comme le soulignait Emmanuel. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un incident dans nos habitudes de regardeur. C'est-à-dire que quand on aime les livres, on vit avec eux, on a l'habitude, on connaît les éditions, on connaît les couvertures, on sait qu'un ouvrage dans la Pléiade reflètera une certaine idée de la littérature, comme un ouvrage un polar reflètera une certaine idée de la littérature. Et pour moi, créer une espèce de très léger décalage dans cette habitude de regardeur suscite quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est comme une sorte de... On peut comparer ça à un millefeuille. Il y a plusieurs strates. La première est évidemment... On sourit. Mais sortis de leur contexte, ces jeux de mots, pour moi, n'ont pas d'intérêt, n'existent pas. C'est ce qui est intéressant, c'est l'objet, et c'est surtout à un moment donné, il se passe, il y a un très léger décalage dans le quotidien, dans l'habituel. Voilà. Et quand on parlait du sourire et du rire, on rejoint ce qu'on disait sur Giono, c'est-à-dire que la légèreté n'exclut pas la mélancolie, et que c'est pour moi une forme de pudeur ou de réaction à la noirceur, précisément, d'avoir recours au rire. Mais rien n'est jamais si simple. Il y a plusieurs degrés de lecture, et s'il n'y avait pas ces plusieurs degrés de lecture, on s'ennuierait beaucoup. Donc, je suis très heureuse qu'on s'en amuse, et j'aime rire aussi, mais tout cela va au-delà. Et c'est ce que j'ai aussi fait avec ce travail sur la bibliothèque de Giono. Je suis vraiment très heureuse qu'Emmanuel ait fait appel à moi. Une exposition, c'est comme un puzzle, comme un meuble en kit. Emmanuel est la seule à avoir une vision, et Jacques, d'avoir une vision de l'entièreté. Elle m'a confié une pièce du puzzle. Et c'est cette pièce-là à laquelle je me suis attachée. Et en l'occurrence, j'ai visité la bibliothèque de Giono au Paraïs. Et mon rôle, à moi, était de traiter ce que j'ai compris du Giono lecteur. Et c'est tout, c'est une toute petite pièce.
Avec cet esprit caustique et profond, comme vous venez de le définir.
Avec l'esprit qui est le mien, parce que c'est une commande d'artiste. Donc je ne fais pas de reconstitution, je ne fais pas de restitution de la
bibliothèque. C'est une expression.
Disons que je suis le filtre à travers lequel mon travail... Voilà, j'en ai fait quelque chose.
Oui, parce qu'il y a une chose importante concernant Giono, c'est que c'est vraiment une œuvre de fracas et une œuvre torrentielle où tout est démesuré, comme le disait Jacques tout à l'heure. Mais il y a chez Giono une forme de légèreté qui est difficile à montrer. On peut la raconter dans un livre, on peut la mettre sur un panneau de texte, mais une exposition, c'est dans l'espace. Ça doit être quelque chose qui est ressenti par le visiteur. Et le travail de Clémentine qui est... Je disais hier dans la rencontre, il faut beaucoup de travail pour être désinvolte. Et je crois qu'il faut beaucoup de travail pour être léger. Sinon, on est juste superficiel. Et c'est là où son travail m'intéressait. Et ce sera sans doute le seul endroit de tout le puzzle, comme elle disait, où on pourra, je l'espère, vivre le rapport de plaisir, d'intensité et de légèreté de Giono à la lecture.
Alors on pourrait parler des heures, vous savez bien ici même de Giono, bien sûr. Ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est bien sûr, Emmanuel, ces deux moments forts dans la vie d'un homme et d'une population où tout bascule. Ce sont bien sûr les deux guerres mondiales. Giono, avant 14, était une certaine personne. Après 14, il sera différent, bien sûr. Et puis il aura plein d'illusions qui, en 39-45, vont complètement s'effondrer. Et il va écrire des chroniques qui sont plutôt tristes, sombres et violentes. Ce sont les moments clés de la vie de Giono, en fait.
Ben, oui, c'est-à-dire, il est traversé par ça. Voilà, c'est cette génération qui a subi l'histoire. Il le dit, d'ailleurs, dans Jean le Bleu, il a une phrase merveilleuse, il parle de son ami Louis David, son ami d'enfance et d'adolescence, et qui est mort à la guerre à 20 ans. Et il dit, quand j'évoque Louis David, je ne peux pas me remémorer vraiment les moments heureux. Je suis tout sali de sang. Et il ajoute plus loin, le côté de ses pages est taché de pu et d'ombre. Et voilà, là pour moi tout est dit. C'est à partir de là... la jeunesse de Giono s'est envolée, il perd son père peu de temps après, qui était, je pense, l'amour de sa vie. Alors, j'aime pas faire de la psychologie avec les écrivains, mais là, il se trouve que c'est dans l'œuvre. À partir du moment où c'est dans l'œuvre, alors là, on peut s'en emparer. Et le militantisme pacifiste des années 30, où il est enragé, ce sont des textes extraordinaires, les écrits pacifistes de Giono, mais extraordinaires de violence. C'est qu'aujourd'hui, on imagine un peu parfois les pacifistes comme des doux rêveurs qui, si tous les hommes du monde pouvaient se donner la main, mais c'est pas ça du tout. Giono, c'est un imprécateur. Jacques, tu voulais dire quelque chose?
Le mot de Drieu-La Rochelle dans son journal parlant de Giono, un forcené, ça rejoint tout.
Voilà. Ce que t'as fait. Je te remercie de me mettre dans le même panier que Drieu-La Rochelle.
Oui, mais enfin bon, Il n'avait pas toujours mauvais jugement.
Non, il n'avait pas mauvais jugement.
En l'occurrence, c'est utile ici. On va fermer la parenthèse.
Non, mais c'est très important. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui combattait sur un terrain qui n'était pas le terrain des armes, qui était le terrain des idées, mais qui était dans un combat d'une très grande violence, parce qu'il avait pour mission de sauver le vivant. C'est une mission quand même qui n'est pas tout à fait rien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, oui, ça s'est fracassé. Mais moi, je voulais resituer ça. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la violence des écrits pacifistes si on ne comprend pas l'expérience inaugurale de la guerre de 14. On ne peut pas comprendre l'œuvre si on ne comprend pas qu'elle vient de la tranchée. Vraiment. Et on ne peut pas comprendre les difficultés que nous pose aujourd'hui le comportement de Giono pendant la Seconde Guerre mondiale si on ne voit pas d'où elles viennent, c'est-à-dire d'un dégoût profond de l'humanité au moment où la guerre revient. Et moi, je crois, et je sais que Jacques partage cette vision, qui est qu'après la Seconde Guerre mondiale, Giono a arrêté de croire en l'homme. Voilà.
Tout à fait.
Oui. On va terminer cet entretien. Je rappelle, Emmanuel Lambert, votre livre, c'est Giono Furioso, qui est paru chez Stock. L'exposition démarre quand? Dans
le
un
30
mois
octobre.
30 octobre, on y sera, bien sûr. Clémentine Mélois, merci aussi d'avoir été notre invitée. Vous serez présente à l'inauguration à Marseille?
J'irai faire un petit tour, oui.
Très bien.
L'expo Giono au MUCEM du 30 octobre au 17 février 2020, c'était un extrait d'une émission réalisée durant les correspondances de Manosque. Et demain, exceptionnellement, la visite est gratuite au J4 de Marseille de 16h à 21h.